Titan Mag, T comme Titane, Dan comme Daniel, le magazine de Titane et Dan. Le Titan Mag avec la complicité de l'ami éclairé
Dominique
au micro et de l'ami fidèle
Laurent
à la technique vous invite à participer à ces rencontres humaines, ses inspirations de l'instant et son désir imminent.
Brahim Lee, vous êtes né au Sénégal, votre langue maternelle est le Wolof. Vous avez étudié le français à l'école à l'âge de 8 ans. Vous parlez également le Poular, qui est la langue des bergers peuls, puis l'anglais. Vous aimez les mots. Cette confrontation entre la langue française et le Wolof est pour vous un élément d'une grande richesse. C'est à Dakar que vous avez appris la musique, avec une bande de copains. Vous êtes slammer, après avoir pratiqué le rap. Vous écrivez des textes que vous produisez la plupart du temps accompagnés d'une mélodie qui souligne le rythme des mots, mais qu'il vous arrive également de dire a cappella. Votre écriture s'imprègne de votre écoute du monde, mais aussi des rencontres que vous aimez faire, notamment avec des sages africains que vous retrouvez à l'occasion de vos retours au pays. Un mot ou deux peut-être pour rappeler que le slam a été entre guillemets inventé par un Américain, Mark Smith, en 1986, avec l'idée de faciliter l'accès à la poésie et d'en faire un art un peu moins élitiste et plus vivant, à l'écoute du présent. Le slam, c'est donc une poésie orale, urbaine, qui se déclame selon un minimum de règles dans des lieux publics, sans décor, sur un rythme scandé, pas de costume, une voix qui donne ses mots, des oreilles qui les reçoivent, la poésie qui rencontre le présent. Alors, sur les origines du mot, tout le monde n'est pas d'accord. Apparemment, le mot viendrait du mot « chelem » qui signifie une série de victoires, plutôt que du mot anglais « slam » qui signifie « claquer ». Mais on ne va pas disputer de ça. En 2013, vous créez votre propre association, vous participez à d'autres, votre propre association artiste, afin de promouvoir le développement de Anne Village, petite commune de pêcheurs.
C'est ça.
À quelques kilomètres de la ville de Anne Belair, qui fait partie du Grand Dakar. Oui. Bonjour, Brahim Lee.
Bonjour.
Alors, avant de démarrer cet entretien, vous allez nous présenter une jeune chanteuse.
Qui s'appelle Lena Higg. C'est la fille d'un ami. On avait créé à peu près une dizaine d'années un groupe qui s'appelait DZEG et son père faisait partie de ce groupe avec François et moi, Nasser et d'autres amis. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une continuité parce que quand sa fille aujourd'hui, découvre la musique, est passionnée par la guitare, par chanter. Donc, je me suis dit, non, mais il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'on l'amène à la radio, qu'on essaie de faire sa promotion et puis vous la présenter, voilà. Donc, elle s'appelle Lena Higg.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Lena Higg.
Alors, qu'est-ce que vous allez nous chanter, Lena Higg?
Donc, je vais chanter Hotel California du groupe The Eagles.
On vous écoute.
Voices down the corridor, I thought I heard them say, hey.
twisted. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends. How they dance in the courtyard, sweet summer sweats. Some dance to remember, some dance to forget. So I call up the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had a spirit here since 1969. And I see those voices are calling from far away. They wake you up in the middle of the night just to hear them say, hey, welcome to the Hotel California. Such a lovely place. At the Hotel California, what a nice surprise. Bring your alibis. Mirrors on the ceiling, dipping champagne on ice. She said, we are just prisoners here of their own device. And in a master's chambers, they gather for the feast. They stab it with this silly knife, but they just can't kill the bee. Last thing I remember, I was rolling from the door. I had to find a passage back to the place I was before. Relax, said the nightmare, and we are programmed to receive. You can shed out any time you like, but you can never leave. Welcome to Radio Couleur FM. Such a lovely place. Such a lovely place. Welcome to Radio Couleur FM. Any time of year, you can find it here.
Merci. Merci.
Couleur FM.
Brahim, pourquoi avoir choisi de vous exprimer avec le slam?
Alors, le slam, et moi, c'est toute une histoire. Parce que j'ai commencé par le rap. Et au courant de ma vie, des rencontres, des textes, chaque fois, je trouvais que avec le slam, j'arrivais plus à capter le public mûr, parce qu'avant le rap c'était la jeunesse, c'était des textes un peu bling bling entre parenthèses, et je trouve que le slam c'est beaucoup plus axé sur ma vision de la vie, sur ma vision des choses, parce que Je suis très touché par tout ce qui se passe à travers le monde. Donc, je ne peux pas ne pas apporter ma pierre. Donc, j'ai choisi de slammer, d'écrire des textes, de ce que je ressens et de partager ça avec le public, avec les amis, avec mes rencontres aussi.
C'est quoi la particularité de cet art poétique ?
La particularité, moi je dirais plus, c'est au niveau de l'inspiration en fait. Comment ça vient et qu'est-ce qu'on veut en faire? Qu'est-ce qu'on veut que celui qui nous écoute nous prête l'attention, ou comparé au rap? C'est pour ça que j'ai décalé un peu par rapport au rap. Parce que je trouve que le rap, c'est la musique qui est saccadée. Des fois, tu le mets même, les gens, il y a certaines personnes qui se disent que c'est trop bruyant. Et les textes, pourtant, sont très riches. Mais souvent, c'est la façon de les déclamer, de les sortir, je pense. Et je trouve que le slam, ça me correspond. Et voilà, je véhicule mes messages par le slam.
Et quand vous écrivez comme ça un texte, un slam, est-ce que vous avez déjà en tête la façon dont vous allez le déclamer devant le public, ou est-ce que ça vient après, dans un deuxième temps?
Alors, des fois, c'est avant, des fois, c'est après. Parce que des fois, j'ai la musique dans ma tête, la façon dont je vais déclamer, j'ai la musique. Et donc, il suffit juste que j'écris le texte. Et après, la musique, c'est fait, c'est bon. Mais des fois aussi, c'est j'écris le texte et après, je compose la mélodie qui suit avec. Parce que ça dépend de l'émotion du texte, comment c'est fait, comment c'est écrit. Et souvent, c'est comme ça que ça passe avec moi.
Et comment est-ce que vous nourrissez votre écriture, hein? Vous nous avez parlé de vos rencontres. Vous nous avez dit que vous écoutiez le monde, en quelque sorte. Alors, comment est-ce que...
En fait, moi, je suis très, très attaché à mes racines. Donc, à chaque fois que je pars au Sénégal, je vais m'inspirer. Je vais au village, bien vrai que je suis à Dakar, donc dans la ville. Mais je prends un moment pour aller au village parce que avec mon père, on y allait très souvent. Donc, je pense que j'ai gardé ça quand j'étais jeune. Et donc, ça m'inspire beaucoup. Et quand je m'y rends, donc je discute avec des sages, des griots. Et chaque fois quand je rentre, je suis, on va dire, je suis plein quoi de cette sagesse. Et ça m'aide à écrire mes textes.
Et cette envie d'écrire, elle vous vient de loin?
Alors cette envie, je dirais oui. Parce que quand j'étais plus jeune, chaque fois, je discutais avec les vieux du village. Et chaque fois, j'ai cette chance qu'à chaque fois, on parlait sur des mots, sur les proverbes, l'adage. Et tout ça, ça me nourrissait, en fait. Et donc, je pense que ça fait partie du pourquoi j'écris toujours.
Vous pourriez nous lire un texte en Wolof?
Oui, avec plaisir. Tagatal sa dom ci lu wessu ju dom ci kaw say ponk nga motal fexel sa yon nga fonk djublul penk fenk su jutal borom aras juni sar lay doti fasene reud ab mind ci bir xet janok beut ba beut ab manugui bawan ci bir askan gu newle misal du jog dik wacc fek liñu don ñu dañu ko djegi lu bax jëm ci lu bon ay kilifay bejen janok seni dom diko bejen jigen ju du rus sey ak majus nak alal.
Traduisez.
Alors ce texte, ça parle de l'espoir, de l'amour, de la vie, comme quoi on est tous pareils. Aimons-nous et la vie ira toujours mieux.
C'est un texte universel?
Universel.
En fait, vous êtes un griot moderne.
Je ne suis pas 100% griot, mais j'ai fréquenté pas mal de temps les griots. Parce qu'en fait, dans ma famille, parce qu'au Sénégal, il y a ce qu'on appelle les griots, il y a ce qu'on appelle les guerres. Et donc, nous, on fait partie des guerres. Donc, nous, on a des griots, en fait. Donc, dans chaque famille, il y a un griot qui est là pour perpétrer l'histoire de la famille, qu'il garde. Et donc moi, je fréquente les griots tout le temps. Et souvent, même quand je rentre au Sénégal, tout le temps, dans la maison, il y a beaucoup de griots. Et eux, ils sont là pour nous, pour qu'on garde cette histoire. Ils nous enseignent.
Pour rappeler tout
voilà,
ça.
Voilà, parce que mon père avait son griot. Donc, c'est une histoire de famille. Ça se transmet. Donc, moi aussi, je fréquente un griot qui est, quand j'ai besoin de savoir quelque chose, si je l'appelle, il me dit tout. Parce que son père lui avait enseigné. Donc, c'est comme ça que ça.
Une grande sagesse.
Une grande sagesse.
On ne va pas oublier le slam, mais il faudrait qu'on parle un petit peu du Sénégal. Alors, ce pays, pour vous, sa principale richesse, c'est quoi? Je ne parle pas d'économie, forcément.
Le Sénégal, on a l'habitude de l'appeler le pays de la teranga. Le pays de la teranga, c'est en Wolof, c'est l'hospitalité. Donc, bien vrai que même s'il y a la pauvreté, il y a cette richesse qui est d'accueillir la personne, de sourire, même si ça ne va pas. Et ça, c'est pour ça qu'on l'appelle le pays de la teranga. Donc le Sénégal, moi je dirais que c'est un pays très riche humainement. Et les gens sont super sympas. Et à chaque fois que j'y vais avec des amis, vraiment ils sont contents quoi, de l'accueil. Et je pense que c'est quelque chose de... On peut dire vraiment que le Sénégal a tout cette potentialité. C'est que même si c'est dur, on est heureux, on est bien quoi. Ça va aller souvent. Et voilà, c'est le pays de la teranga.
Finalement, vous employez exactement les mêmes mots pour parler de votre pays d'origine que pour parler du slam, l'hospitalité, la pauvreté, donc une condition, mais quand même une immense qualité.
Oui. Parce que j'ai baigné dedans. J'ai baigné dedans, donc j'en garde vraiment des souvenirs que j'oublierai jamais. Même si je suis loin de chez moi, mais mon cœur y est.
Je trouve ça magnifique parce qu'on parle justement tout ces temps-ci de retrouver ses racines. Et ça m'interpelle parce que je me dis, mais les racines, elles viennent de la famille. Donc c'est qu'il y a ici en France un problème. Et de vous entendre justement parler de cela, c'est magnifique. Il faut qu'on en prenne des leçons.
Alors, quand même... Quelles sont les perspectives de développement d'un pays qui n'a pas beaucoup de ressources minières?
Alors, moi, je voudrais juste profiter de l'occasion pour lancer un message, je dirais même aux dirigeants africains. Parce que l'Afrique est très, très riche, l'Afrique en elle-même. Parce que si on voit même le pétrole, niveau mondial, l'Afrique est à 12%. Donc, le Sénégal, il y a ce qu'on appelle phosphate. Il y a l'uranium dans les autres pays. Il y a l'or. Et à chaque fois, les Africains sont là en train de mourir en prenant des embarcations de fortune. Donc, moi, je dis, je ne peux pas rester indifférent devant cette scène qui s'offre à nos yeux, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre la télé, voilà, il y a 10 000 morts, alors que l'Afrique est riche. Je voudrais dire aux dirigeants, s'ils ne peuvent pas, parce que quand on dit un dirigeant, c'est celui qui dirige. Et s'ils ne peuvent pas diriger, ils n'ont qu'à quitter le pouvoir. Parce que ça ne peut plus y aller. Parce que et quand on les voit, ils roulent, enfin, ils collectionnent même des voitures. Ils ont des châteaux par-ci, par-là, des comptes garnis en Suisse. Moi, je trouve que c'est lamentable. Donc, c'est un cri, je leur dis, de s'ils ne peuvent plus apporter quelque chose à la jeunesse, ils n'ont qu'à quitter le pouvoir et arrêter d'être les ambassadeurs de l'Occident. En gros, parce qu'en fait, ils sont là au pouvoir, ils amassent de l'argent. Pendant ce temps, la population crève de faim, il y a pas l'eau potable et cette précarité, c'est énorme. Alors que l'Afrique est riche.
Vous avez employé un mot, le mot jeunesse. Comment les jeunes Sénégalais perçoivent tout ça, le pays qui leur pays qu'ils aiment, et puis parfois une gestion très...
Moi, je veux dire, je mise beaucoup sur la jeunesse. Il n'y a que eux qui peuvent renverser cette situation. Parce que on a été pendant longtemps dans cette sphère quoi, qui est aujourd'hui chaotique. Et à chaque fois, c'était les dirigeants d'avant. Ils étaient là, ils amassaient de l'argent. Pendant ce temps, la jeunesse crève. Et moi, j'appelle la jeunesse à se soulever, c'est-à-dire pas avec les armes. Moi, je ne suis pas pour la violence. Mais je veux dire, mentalement et puis intellectuellement, parce que beaucoup de jeunes sont partis étudier. Moi, ce que je leur demande, c'est de venir au pays avec leur savoir et essayer de changer cette situation. Parce que ça ne peut plus continuer, quoi.
François, vous voulez nous...
Oui, si je peux me joindre au débat.
Bien sûr.
Donc, je pense que pour moi, c'est comme il dit, l'Afrique ou le Sénégal, c'est-à-dire on doit se battre avec nos moyens. L'Afrique, surtout le Sénégal, a une richesse, la jeunesse, la musique, c'est un facteur d'économie. Donc, que les Sénégalais ou la musique sénégalaise, il faut qu'ils se connaissent, se développer, et que les Sénégalais aussi arrêtent beaucoup de se cantonner dessus, parce que la musique sénégalaise, une fois, on a même fait ça, quand ils jouent ici la musique sénégalaise, ici dans cette salle, les gens vont s'asseoir, ils vont regarder. S'il n'y a pas de Sénégalais, donc il n'y a personne qui danse. Alors que si tu joues, tu fais de la musique congolaise ou la musique, tout le monde va danser, ou ivoirienne, et tout le monde connaît le couple décalé, tout ça. Donc, parce qu'ils se sont modernisés. Donc la musique sénégalaise, moi aujourd'hui, c'est ça. Elle doit se développer, elle doit se vendre à l'extérieur. Et ça, c'est de l'argent qui peut retourner dans les pays pour l'investir. Donc le Sénégal ou bien l'Afrique a beaucoup de ressources humaines de ce côté-là, artistique. Donc pourquoi ne pas le développer? Donc ça fait, moi là, bon, il a parlé de politique, je ne vais pas y revenir. Mais moi, c'est surtout ça, le côté art. Et le Sénégal ou d'autres pays doivent beaucoup évoluer par rapport à ça. Et je pense que ça peut aider.
Ben vous venez de répondre à une question que j'allais poser sur la musique sénégalaise. C'est parfait. Merci François.
Merci François.
Alors justement, à propos de musique sénégalaise, Ibrahim, vous aviez prévu avec
François Diatta, Kebisco, Raph et Lenaïg, ils vont nous faire une chanson qui s'appelle Picayou.
On vous écoute.
Njeli male baganam dunia e na kadolia e. Ukan hani nam apion kalam baba inje pikayu. Beme hani anye nam ponket tulam. Nanganyanga sokuwawe na hatanga kawe. Aha he, anyijata pawali. Ila manya de waratale, ila makang de waratale. Ha he, misjata pawali. Baba he inam bahal injigayu malagi inya he inam bahal injigayu malagi kaduko dunia ehina le changi kaduko dunia ena kanolia namu sanka wele pol namu sanka sosokol ha ahe anyi jata pawali na hatanga sokuwawe namu sanka sokuwawe ha ahe miss alone pawali. Njele male baganam dunia ehina le changer. Njele male baganam dunia enakanolia e. Hukan hani nam apiyong kalam papa inje bigayu. Beme honi anyi nam ponket tulam
bravo.
Ouais, super. Sur Couleur FM 97.1 avec notre invité Ibrahim Lee et ses complices, il y a François, Lénaïgue et Raphaël. Vous venez de nous interpréter, François, un chant. Et de quoi parle ce chant?
Oui, ce morceau picaille, c'est dans ma langue maternelle. Tout à l'heure, je parlais, je sais pas si... Enfin, ma langue maternelle, ça s'appelle le Caronne. Le Caronne, c'est une sous-langue ou une dialecte du Diola. Donc, beaucoup au Sénégal, quand on dit Diola, ils savent. Donc, le Caronne est une sous-langue ou une dialecte du Diola. Alors, Picayou, c'est une chanson que j'ai dédiée à ma fille. Et j'en profite pour l'occasion. Aujourd'hui, elle a 20 ans. C'est son anniversaire, jour pour jour.
Bon anniversaire.
Voilà, elle s'appelle Véronique. Voilà. Donc, Véro, je t'embrasse. Je te souhaite. Je te dis. Bon anniversaire. Alors, ça parle de Picayou. Picayou veut dire partir. Donc, dans chaque famille, ça, nous tous. Moi, je suis parti du Sénégal parce qu'il fallait partir. Donc, on fait des enfants, ils grandissent, ils partent. Et ça, et à l'approche de ses 18 ans, ça a commencé à me travailler. Je sais qu'un jour, il va me dire, papa, je vais partir. Et ça fait mal. C'est... Voilà. Donc, Picayou vous dit partir, c'est universel, c'est dans chacun. On est enfant, on deviendra parent, les enfants partiront, ou on partira en voyage. Donc, je suis parti d'abord du Sénégal pour venir jusqu'en France. Ma fille, un jour, elle va me quitter, elle va partir aussi, et ainsi de suite. Voilà. Et c'est venu aussi d'une anecdote comme ça avec mon compère. Raphaël Collet, un jour j'étais là, je me dis même. Il me disait, mais ça fait longtemps que tu n'as rien écrit. Et là, je dis, bon, je vais le faire. Et c'est là que cette inspiration m'est venue. Donc, grand merci à Raphaël.
C'est toujours une complicité entre ouais. Vous tous. Là.
Oui. Ouais.
Voilà, donc aussi, j'ai dit, l'histoire est là. C'est ça, Picayou.
Ibrahim, l'actualité est encombrée du drame de ces migrants qui affrontent les pires difficultés pour quitter un pays en guerre ou un pays qui souffre de la faim.
Oui, comme je disais tout à l'heure, la jeunesse est laissée à la dérive en fait. Donc... Les dirigeants n'ont qu'à assumer parce que, et puis prendre une décision. Ça, c'est très important. Une décision, c'est-à-dire ne pas, je ne dis pas décision, ouais, on voudrait faire ça, on voudrait. Non, c'est trancher, c'est prendre une décision. Parce que quand on prend un exemple aux États-Unis, quand ils ont voulu faire la fédération des États, d'ailleurs même il y a un livre qui s'appelle la décision finale. Ils ont pris une décision et ils n'étaient pas nombreux. Il y avait Franklin, je pense, oui, et puis quelques gars d'autres. Et ils ont pris une décision, ils l'ont fait. Et je pense que l'Afrique, on n'a pas cette, ça. On n'a pas, on prend pas de décision finale. On est là et chacun est là pour ses propres intérêts, surtout les dirigeants. Et donc ça, ça doit changer, au fait. Il faut qu'ils pensent à leur jeunesse et arrêter de les délaisser comme ça. Parce que quand même, l'Afrique est très riche.
Mais les jeunes sont là qui ont envie précisément d'avancer.
Bien sûr. Ils ont envie. Moi, à chaque fois que je pars au Sénégal, je discute avec des jeunes. Ils ont envie de travailler. Ils ont envie de faire prospérer leur pays. Mais on ne les donne pas les moyens. Parce que chacun, surtout les dirigeants, ils sont là que pour leur propre intérêt. Et l'intérêt, disons, de l'Occident. Parce que ça a toujours été comme ça.
Et ça s'explique également par l'art, dans la sculpture, la peinture.
Bien sûr.
Ça ressort.
Bien sûr. Même moi, dans mes textes, ça aussi, ressort.
Aussi, dans l'écriture.
On le dénonce. On essaie d'en parler, de le dire. Il faut juste qu'ils prennent des décisions finales et puis aider cette jeunesse. Parce que il n'y a que la jeunesse qui peut faire retourner cette situation.
Les pays occidentaux ont une part de responsabilité dans cette situation.
Oui, bien sûr. Après, moi, je dirais que, par exemple, moi, si on me force à faire quelque chose, je peux dire non. C'est ça, au fait, que je n'arrive pas à comprendre. On ne peut pas se dire, oui, l'autre, alors que toi, c'est toi qui est là, qui accepte, qui continue dans cette... Dans cette lignée, et ça date depuis des siècles. Mais je pense que, avec la jeunesse, ça va changer un jour.
Il faut souligner aussi, il y a des efforts qui se font. En fait, pour intervenir un petit peu dans ce débat politique, alors que moi, j'aime pas trop. Mais il faut reconnaître qu'aussi, il y a certains pays qui ont compris une certaine chose, qu'il faut maintenant évoluer. Un pays comme le Sénégal, avec le nouveau président, M. Lou, parce que je suis un peu le pays, quoi, même de loin. Et il a compris, la première des choses, c'est faire des réformes agricoles, c'est-à-dire parce qu'il s'est dit qu'il faut qu'on arrive à de l'autosuffisance alimentaire. Donc, ça fait 3 ans et ça porte des fruits. Aujourd'hui, le Sénégal est vraiment évolué beaucoup dans ce sens. Et il essaie de donner aussi des moyens aux agriculteurs. Donc, ça évolue. Par contre, c'est vrai qu'il y a une bonne partie de l'Afrique, certains pays où c'est toujours, les gars, ils tiennent les rênes, ils ne vont pas proposer. Et c'est ce qui est dommage. Mais si tout le monde essaie de faire un pas en avant, moi, notre président du Sénégal, ce serait bien. Voilà, je ne suis pas politicien, mais je reconnais quand même qu'il fait des efforts.
Et vous dites que l'agriculture est une richesse potentielle du pays?
C'est ce dont le pays a besoin présentement, c'est l'alimentation.
Tout à fait, ce qu'il dit, c'est vrai.
Parce qu'avant, jusque-là, les dirigeants ils demandaient de l'argent à l'Occident. Et quand l'argent arrivait, au lieu de l'investir, non, soit ils retournaient cet argent-là pour le mettre dans les banques. Ça servait à quoi? Donc ce nouveau président, au moins, il s'est dit non, il peut demander de l'argent. Mais en même temps du matériel pour le distribuer, le redonner aux agriculteurs pour qu'ils aient au moins de quoi manger. Ça, c'est très bien.
Comme il dit, l'agriculture, c'est, pour moi aussi, c'est le noyau. Parce que, vous savez, les autres pays, quand on dit un pays est développé, c'est parce que ce pays n'a plus faim. Parce que aujourd'hui, moi, si j'ai faim, est-ce que j'allais même venir ici slammer? Parce que j'ai trop faim, j'arrive pas, non. Par contre, si tu es rassasié, tu n'as plus faim, eh bien là, tu crées. Tu as plus cette... Alors que ce qui nous bloque un peu des fois l'Afrique, c'est que tu as faim. Quelqu'un qui a faim, il ne va pas chercher à pousser ses inventions. Non. Alors que ce côté agriculture, si on le développe, je pense que ça va porter ses fruits.
Est-ce que le climat est un problème?
Alors, en Afrique, c'est vrai que, bon, quand on parle de l'Afrique, on parle aussi de la sécheresse. Mais tout ça, avec les moyens, je pense que si, avec les moyens, on peut y arriver.
Moi, je dirais que de nos jours, il n'y a aucun problème. Le monde est tellement... c'est mondial. Donc, si on veut vraiment développer, même les États-Unis, ils ont un problème de sécheresse, mais ils y mettent les moyens.
Oui, ils y mettent les moyens.
Voilà. Ils y mettent les moyens. C'est, alors, la politique africaine doit s'arrêter en disant que voilà, l'argent m'appartient, le peuple aussi m'appartient. Non. Les dirigeants ils doivent s'aider. Nous, on est là au service du peuple. Le peuple demande de quoi manger. Il faut lui donner les moyens de quoi se nourrir. Moi,
c'est le minimum.
C'est tout ce que tu vois.
C'est le minimum. Parce que quand on est dirigeant, on doit quand même assumer. C'est pas énorme. Le fait d'assurer à la population de pouvoir se soigner, c'est le minimum. De pouvoir manger à sa faim. Mais c'est juste ça. Il faudra avoir ce côté-là. Je
pense. Alors, on va revenir au slam. Vous allez nous slammer un texte. Comment il vous est venu, ce texte? Comment vous l'avez écrit? Combien de temps il vous faut?
Alors, ce texte, il m'a fallu, disons, 2-3 jours. Parce qu'en fait, j'étais très inspiré par tout ce qui se passait, l'actualité, tout ça en ce moment. Donc, j'ai profité de l'occasion, comme j'allais être invité à Couleur FM, de passage, je vous remercie. Et donc, j'ai écrit ce texte, et accompagné par Lenaïg, à la guitare, et elle va interpréter aussi le refrain.
Alors, donc, oui, oui, on va vous écouter. Moi, j'aimerais que, non pas vous nous révéliez vos secrets, mais quand même, comment ça se passe? Vous êtes devant la page, devant votre ordinateur. Comment ça se passe? Vous me dites en 2-3 jours. Bon, mais je voudrais en savoir plus.
Vous savez, l'inspiration, c'est quelque chose qui vient, qui est là, quoi. Qui vient, ça peut venir, moi, des fois, comme je vous dis, hein. Des fois, un texte, ça peut me prendre des mois. Des fois même, je dis, ben allez, je vais laisser le coup de côté. Après, je sais pas, quelques mois, après, ça revient, je retourne. Donc, c'est comme un écrivain qui écrit un livre. Donc, on ne peut pas savoir, mais qu'est-ce qui l'inspire, en fait? Je pense que c'est plus le contexte où on est. Donc, ce qui passe, comme là, on est là, à la radio... À mon avis, nous tous, on est inspirés par quelque chose. Si on se mettait à écrire, on allait écrire. Donc c'est comme ça, en fait, ça me vient.
Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on vous écoute, il y a une musicalité non seulement de votre interprétation, oui. Si je puis dire, mais des mots eux-mêmes.
Oui.
Est-ce que vous avez un premier jet, et puis ensuite une lecture à voix haute? Est-ce que vous le faites lire à des amis? Est-ce que vous corrigez beaucoup?
Non, je le fais pas lire. C'est très rare, hein, quand je débute un texte, d'aller faire lire. Parce que je me dis, ça, pour moi, dans ma tête, ça donne rien, quoi. Après, comme j'ai fait un peu de la musique, donc j'ai un petit peu cette façon de voir les choses musicalement. Donc, quand j'écris un texte, j'essaie de que ça imprègne une musique, même si, par les mots, après, par un instrument. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Parce que comme j'ai fait du rap, donc c'était souvent avec des instrumentaux, tout ça, là, ouais. Donc, tout ça, ça m'aide, je pense. Après, le reste... Ouais, c'est comme ça, ça vient.
Est-ce que, juste, ça c'est une question technique, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'un slam, ça ne doit pas dépasser un certain nombre de mots, ou est-ce qu'on a une toute liberté?
On a une toute liberté. Hmm. Parce que, ça, le slam, des fois même, il y a des scènes ouvertes, où chacun est là, arrive avec son texte, il déclame. Des fois, il n'y a pas de limite. Après, moi, vu que souvent, quand je fais ma musique, j'essaie de prendre un temps. Ça, il ne faut pas que ça dépasse 5 minutes. Parce que, aussi, un texte, quand c'est long, ça...
On décroche.
On décroche à un moment donné. Alors qu'il faut donner le maximum, mais en essayant de ne pas lasser la personne qui écoute. Ça, c'est pour moi, c'est important. Des familles et amis, suivre un rêve sans trêve et peut-être jusqu'à la crève. Prisonniers des circonstances devant cette misère grandissante, quelle contenance prendre? Des exigences empirent leur subsistance jusqu'à perdre consistance de leur espoir. Ils sont partis à l'aube, abandonner un pays aux mains de dictateurs assoiffés de pouvoir, s'agrippant au trône jusqu'à la mort, et sans aucun remords, c'est la loi du plus fort. Faire du mic, ma calache, en ayant conscience que je m'engage comme sur un ring de catch. Je serre les poings face à ces dirigeants que la jeunesse a besoin de soins. Sur un flot teinté de larmes, j'acclame, je réclame, et puis je condamne à travers un slam. J'enfile mes gants et j'espère que mon message arrivera à temps et se répand dans l'océan. Avant qu'ils embarquent, pour pas que la mer soit le seul issue, pour pas qu'elle soit un sanctuaire des naufragés que l'océan du temps porte, des frères laissés pour compte, les déjetés, un destin scellé, pour certains ne verront jamais le bout du tunnel. Pour trouver une solution, l'Afrique n'est pas démunie, mais seulement désunie.
L'Afrique n'est pas démunie, seulement désunie. L'Afrique n'est pas démunie, seulement désunie.
Oh, chef d'État et à ses passeurs sans scrupules, je demande des comptes qu'ils ont à nous rendre et à entreprendre une discussion autour d'une table afin de stopper cette illogique que l'on pistonne et qui empoisonne la nation. L'Afrique est loin d'être démunie, mais aujourd'hui désunie, détruite. Toute cette richesse dilapidée sans cesse, des coffres volés, vidés et exportés, perpétré par tous ces dictateurs pillards, avec comme complice ces roublards, qui ne se soucient guère de sa provenance, mais de sa contenance, et tout ceci me pousse jusqu'à perdre contenance.
Merci. Couleur FM 97.1. Ibrahim, vous nous présentez vos musiciens?
Alors, Lena Higg.
Bonjour.
Quelle est cette belle jeune fille à la guitare qui nous a suivis tout au long de cette réunion et de cette interview?
Donc, Lena Higg, c'est la fille de Raph, Raphaël Collin, qui parlera un petit peu tout à l'heure. Voilà, elle est. Elle a quelque chose. Moi, je trouve personnellement qu'elle a quelque chose.
Et on peut vous demander si vous avez envie de continuer la chanson, l'accompagnement.
Oui, moi, j'aime bien la musique. Et, mon père, il faisait de la musique depuis qu'on est petite. Et du coup, on s'est un peu imprégné.
C'est une deuxième nature pour vous.
J'irai peut-être pas jusque-là, mais j'aime beaucoup ça.
Vous avez besoin de vous chanter, la guitare?
Je dirais pas que c'est un besoin, mais je dirais que ça, c'est agréable. C'est un petit complément de la vie qui est vachement sympa.
Et du coup, c'est une complicité avec votre papa?
Carrément, oui, complètement. C'est vraiment un de nos liens, ça fait partie intégrante d'un de nos liens.
Est-ce qu'il est dur à l'apprentissage?
Il est pas dur à l'apprentissage, mais il est juste, c'est-à-dire qu'il a un avis très objectif, et c'est super agréable justement de pas avoir quelqu'un qui dit tout le temps bravo bravo. Il dit vraiment son avis, ce qu'il pense, et comme ça on sait quand il dit que c'est bien, c'est que c'est vraiment bien.
Et c'est ainsi qu'on avance en fait.
Oui. C'est avec des remarques telles qu'il me fait que.
Et Raphaël, vous-même, comment êtes-vous tombé dans la musique et puis dans ce groupe?
Alors, bonsoir. Et ben, en fait, on faisait partie d'un même groupe, comme ils en ont parlé tout à l'heure, qui s'appelait Desdedec sur Bourgoin. Et donc, en fait, c'est notre amitié, elle est née de ce groupe. Et donc, ce groupe s'est éteint. Mais par contre, les amitiés ne se sont pas éteintes. Et parfois, on se rappelle et j'interviens, je viens dépanner. Voilà, je viens dépanner parce que c'est des amis et ça me fait vraiment plaisir. Moi, la musique, c'est pas mon métier, c'est plutôt une vraie passion. Et je suis très content que ma fille partage ce moment avec nous. Et j'en suis très fier. Voilà.
Bien, bien, bien.
On présente François Diatta.
François Diatta,
oui. Oui, bon, ma française Diatta, donc j'ai un nom de scène que j'aime bien, c'est Kebisco. Donc, moi, j'apporte dans tout ça la touche vraiment racine, c'est-à-dire mes chansons, c'est moi qui les compose. Donc, même le groupe dont on parlait, c'est moi, j'étais le chanteur principal, je danse sur scène, voilà. Et je m'inspire beaucoup de mes racines, le Sénégal, la Casamance. Ma musique vient surtout de. Je me réfère beaucoup aux Touré Kounda qui sont connus. Et je crois qu'ils ont même joué une fois ici.
Oui.
Donc voilà, c'est ma source d'inspiration musicale, c'est mes repères. Donc les amis, ça c'est Ibrahim, lui. Donc à chaque fois qu'on crée un groupe, la partie chant, c'est moi. Lui, il apporte sa partie slam. Donc, on a des morceaux où je chante l'islam, et ça fait vraiment de la world music. Voilà. Et cette année, franchement, je suis vraiment touché par l'apport de cette charmante jeune fille. Franchement, je l'ai dit une fois, si tu arrives à jouer avec pour moi, c'est-à-dire ma musique, tu pourras jouer avec n'importe quel musicien. Et j'en suis sûr. Même persuadé. Voilà, donc là, aujourd'hui, c'est pour Ibou et c'est super, ça me fait plaisir.
Merci. Brahim, on va parler de cette association que vous avez créée qui s'appelle Artis. Bon, elle a un site.
Elle a un site, oui.
Ouais.
Un
site, c'est une association. Vous pouvez nous présenter son but, son objectif?
Oui. Alors, Artis a été créé en 2013. Quand j'y étais allé, donc j'ai beaucoup parlé avec les jeunes, les élus. Donc on a essayé de trouver des solutions et pour proposer en fait tous les ans, c'est-à-dire organiser un festival. Et ça va être sur une journée. Et donc, il y aura une partie sport, une partie culturelle. Et donc, j'en profite même pour donner les dates cette année. Donc, ça va être fin octobre, dernière semaine du mois d'octobre. Okay. Voilà. Et il y aura un grand festival. Donc, pas mal de musiciens qui seront invités. Et puis, on essaiera d'aller dans les écoles pour apprendre les élèves le slam. Donc, il y aura des... On va dire... Il y aura quelques... Comment je peux le dire... des ateliers. Voilà, on va faire des ateliers slam, des ateliers théâtre. Donc, ça va tourner sur tout ce qui est culture, culturel, sportif. Et cette association, je l'ai créée avec un ami aussi qui est sur Paris, qui s'appelle Djibril. Donc, c'est lui d'ailleurs qui s'occupe du site, qui a tout fait, parce qu'il travaille dans l'informatique. Donc, il y a un autre ami qui aime beaucoup le Sénégal, qui s'appelle Jackie Buisson, qui est de Bourgoin. Et c'est vrai que lui, il a beaucoup plus de temps. Bon, c'est un peu bizarre parce que souvent, on se dit que c'est le Sénégalais qui doit y aller souvent, mais en fait, c'est lui. Donc, il y va souvent. Et ça nous arrange beaucoup pour pouvoir... Parce que quand j'ai des choses à faire passer, des rencontres, lui, il s'en occupe. Donc, c'est pas mal, quoi. Et donc, Artis, c'est une association à but non lucratif. Le tout, c'est pouvoir aider le quartier de Anne, qui est un quartier, un village à côté de la mer. Donc, il y a plein de choses à faire là-bas et j'espère qu'on y arrivera. Et ici, à Bourgoin, je suis avec François. Donc, il y a pas mal d'adhérents, RAF. Donc, on travaille. Et,
voilà. C'est difficile de sensibiliser le public à ces questions de développement ici en France.
Ici en France.
Est-ce que le public souscrit à...
Oui, ça c'est sûr. Parce que là, par exemple, on va organiser une fête pour essayer éventuellement de récolter...
Réunir des fonds.
Mmh. Et quand le message est bien passé, le public, en général, suit derrière. Mmh.
Voilà. Si je peux intervenir là-dessus, donc, moi, je suis le secrétaire général d'organisation de la Artiste. Et chaque année, on essaie au moins de mettre en place un programme. Et cette année, normalement, ça devait se faire... pendant la fête des Lilas, mais cette année, bon, c'est pas possible. Et on a eu l'idée de voir avec une dame, c'est une potière qui est à Louis, et elle organise des portes ouvertes. Donc, on lui a proposé est-ce qu'on ne pouvait pas ajouter à son programme autre chose, parce qu'elle connaît bien notre. L'idée d'artiste. Donc, elle nous a demandé oui. Bon, on lui a dit, alors nous, ce serait bien qu'on fasse à manger. Et les gens, parce que lui, c'est un cuisinier. Oh, oui, très, très bon. Moi, je suis beaucoup plus dans tout ce qui est animation, tout ce qui est, voilà, parler et faire de l'animation, c'est tout ce que je sais faire. Et donc, on s'est dit cette année, on va faire des plats. Il va cuisiner des plats traditionnels du Sénégal. Notamment, ça va être dû à ça.
Oui.
Voilà, et peut-être un peu de tièb aussi à découvrir. Et les gens, ils vont payer ces plats. Je ne sais pas, c'est combien ça, autour de
8 euros,
voilà, l'assiette. Mm. Et ce qu'on récolte, donc, des bénéfices, on va les reverser, on va les mettre dans le compte de cette association. Parce que lui... Et cette année, pour le festival, il va être présent.
Alors, rendez-vous à Luis quand?
Ce week-end.
Ce week-end,
voilà.
Très bien, le message est passé.
Samedi au dimanche.
Samedi et dimanche, il y a à manger. Mm-hmm. Voilà.
Alors, Ibrahim, on va peut-être terminer cette rencontre par de la musique, mais vous m'avez parlé, quand on a préparé l'émission, de votre rencontre avec un vieux sage sénégalais, un vieux monsieur, 101 ans, si j'ai bien retenu. Pourriez nous en dire quelques mots?
Oui, ça, c'est vrai que j'aime bien le dire parce que c'était... Ça arrive qu'une fois dans la vie, peut-être. Parce qu'en fait, j'étais allé à Dakar, c'était il y a deux ans. Et je me suis dit, je vais aller au village où mon père, il a passé toute sa jeunesse. Et arrivé là-bas, donc j'avais envie de voir si les gens se rappellent de mon père ou... Donc j'ai demandé, mais les jeunes, bof, comme ça quoi. Et du coup, il y a un qui m'a dit, mais par contre, il y a un vieux qui est à quelques minutes d'ici, on peut aller le voir peut-être. J'arrive, je vois un vieux qui est seul dans sa cage. Je pense qu'il doit avoir, excusez-moi. Donc il devait avoir, 101 ans. Il était seul, donc je rentre, bonjour, je lui parle, est-ce que vous connaissez mon père et tout ça? On a parlé, je lui ai donné le prénom de mon père. Là, il s'est levé, en fait. Il m'a dit, mais c'est sûr, vous êtes son fils, tout ça. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et après, s'ensuit une discussion intéressante. Il m'a appris beaucoup de choses en l'espace de du temps où je suis resté avec lui. Et après je suis parti, je me disais, mais peut-être que ça arrive qu'une fois dans la vie, est-ce que je vais le retrouver encore? Peut-être qu'il sera plus là. Mais ça m'a beaucoup marqué, parce que seul dans sa case, je me disais, mais qu'est-ce qu'il attend? Elle était là, souriant, avec beaucoup d'espoir.
Oui, c'est très beau.
Merci, Lénaïque. On va se quitter sur un peu de musique très rapidement. Merci, Brahim.
Merci à vous.
Merci, François. Vous. Merci, Raph.
Merci à vous tous.
Yo, lélé, 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 yo. Yo, lélé. Yo le 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 yo yo le le Africa Africa, dis-moi pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que t'as mis dans cet état? Africa, prends ton destin.
Sam nam judu bu rafet nek bay way fay da borom taxol jom ci sama xel lay fel ci bu ci sama 1 sur 15 xajul ci bop 15 gesul ma ciosan nañu waxtan baña tan nasran ndaysan kangu pan mako galankor findel ko ci pusok setu getaru taku tagatok mbok ci yon ba mul depp ñu fof xibon don ñuy digal ci ndigal tambale na xirtal ci askan mu deppowul ak seni ciosan.